Ce magazine vous est proposé par le groupe Encia, Assurance et Banque.
Le débat africain, Alain Foucault.
45 millions d'hectares, c'est-à-dire plus que la superficie de l'Allemagne et de la Belgique réunies. Cela donne une idée de l'ampleur du phénomène de l'accaparement des terres en Afrique. Des espaces octroyés, loués, cédés ou vendus à des multinationales pour l'agribusiness. Depuis la crise alimentaire de 2008, l'offensive des géants mondiaux du secteur de l'agriculture sur le continent s'est intensifiée avec l'envolée des prix des céréales et l'enjeu que représentent les biocarburants pour les grandes puissances dans les prochaines années. Des acquisitions qui se font le plus souvent dans l'opacité, dans le secret d'un bureau, avec malheureusement la complaisance de quelques dirigeants ou responsables locaux qui trop souvent ignorent superbement les droits fonciers des communautés villageoises. Une pratique qui menace directement la souveraineté alimentaire, même si quelquefois elle part de bons principes. Celui par exemple de créer des emplois et de la richesse. À qui profite l'accaparement des terres en Afrique? Pourquoi une telle opacité autour des contrats signés avec ces mastodontes de l'agribusiness? C'est le thème de notre débat de ce dimanche avec plusieurs invités, tous au téléphone dans plusieurs pays. D'abord, Monsieur Roland Ravatoumang, le ministre de l'Agriculture de la République de Madagascar. Il est en direct de Antananarivo. Bonjour, Monsieur le ministre.
Bonjour, Monsieur.
Second invité, M. Olivier de Schutter, qui est le rapporteur spécial du secrétaire général des Nations Unies pour le droit à l'alimentation. Il est en direct d'Italie, de Rome plus précisément. En direct de Dakar, au Sénégal, M. Mamadou Bitey, le directeur régional d'Oxfam, l'une des plus importantes confédérations internationales d'ONG. Bonjour M. Bitey.
Bonjour.
Et notre dernier invité est Samuel Ngifo-Téné, le responsable du Centre pour l'environnement et le développement au Cameroun, qui travaille sur les questions des ressources nationales et de justice. Il est, lui, en direct de Yaoundé. Bonjour Monsieur Ngifo.
Bonjour Monsieur Foucault.
Bonjour à tous et bienvenue dans le débat africain ce dimanche. La semaine dernière, l'hebdomadaire Jeune Afrique titrait sur la grande braderie africaine qui continue, mettant en avant l'importance du phénomène. Mais a-t-on, Samuel Ngifo-Téné, les vrais chiffres de ces ventes et cessions dont on parle tant?
Il est pratiquement impossible de savoir exactement quelle est la superficie réelle cédée en ce moment à des investisseurs étrangers ou nationaux. Parce qu'il n'y a pas, de données là-dessus. Personne ne peut savoir exactement.
Oui, mais lorsqu'on avance des chiffres comme vous le faites, comme la plupart des ONG qui luttent contre ce phénomène le font, sur quoi s'appuie-t-on?
Alors, c'est des chiffres sur des transactions déjà faites ou des transactions en cours mais connues. Les transactions en cours connues, les transactions déjà faites ne sont que la partie visible de l'iceberg. Il y a beaucoup de transactions qui sont en cours, qui ne sont pas encore conclues, mais qui restent totalement opaques et qu'on découvrira une fois qu'il y aura une fuite ou alors une fois que la transaction sera définitivement faite. C'est ça qui fait problème. On n'a absolument aucune visibilité sur l'ampleur du phénomène. On sait qu'à partir de ce que nous savons en ce moment, c'est un phénomène grave, extrêmement important. Mais on peut également savoir avec certitude qu'on n'a pas toutes les informations, que la situation est bien pire que celle que nous connaissons.
Alors, M. Bitey, vous partagez ce point de vue. Vous aussi, vous n'avez pas des chiffres un peu plus précis?
Et le dit mon ami, je pense qu'il est difficile de dire l'ampleur, de connaître tous les chiffres. Mais nous en avons par rapport à des estimations. Nous estimons aujourd'hui que sur les 10 dernières années, c'est près de 700 contrats d'achat de terres quand même qui ont été effectués.
700.
Et ce qui représente 50 millions d'hectares de terres africaines et particulièrement de terres agricoles qui ont été vendus. Ceci représente 5 fois la superficie du Bénin, ou si vous voulez, 7000 fois la ville de Cotonou. Donc ces chiffres existent, mais comme il l'a dit, ça ce n'est que la partie connue. Alors parce que ces transactions ne se font pas toujours de manière transparente, et donc nous estimons que les chiffres que nous venons d'avancer ici ne constituent qu'une partie du phénomène.
Mais est-ce que le fait aujourd'hui de vendre ces terres-là, d'octroyer ces terres-là à des multinationales, n'est traduit pas le fait que c'était des terrains qui n'étaient pas exploités et qu'il va falloir produire pour nourrir les populations dans ces contrées où il y a souvent la faim?
Non, pas toujours. Souvent aussi, c'est pas. Il y a deux phénomènes de l'acquisition à grande échelle de terres, et nous parlons là de plusieurs centaines d'hectares. Et souvent, c'est des terres sur lesquelles vivent et travaillent des paysans, des pasteurs qui comptent, qui dépendent de ces terres-là pour leur agriculture ou leur cheptel. Donc, ces terres leur permettent de nourrir leur famille, de subvenir aux besoins de leur famille, bref, de construire une vie. Et nous avons vu que souvent, lorsque ces contrats sont faits avec le soutien soit des élites locales ou des décideurs politiques au niveau des capitales des gouvernements, les nouveaux propriétaires procèdent à l'expulsion de ces populations endogènes, et souvent dans la violence, et parfois aussi sans compensation adéquate.
Est-ce que l'État, lorsqu'elle octroie ces terres-là, ne négocie pas les compensations des villageois, ne donne pas des indemnités à ces villageois-là?
Bon, écoutez, souvent, ce qui est important, c'est qu'il est important que ceux qui vivent sur ces terres et qui en ont une, qui la cultivent depuis des décennies, qui la cultivent et qui l'exploitent depuis des générations, qui ont souvent ces terres comme leur seul bien, ne sont pas consultés. Donc, il se peut bien que des indemnisations soient négociées, mais il faut que ceux qui vivent de ces terres-là soient consultés, que leur droit à un consentement au projet qui ont occasionné ces ventes-là soit garanti, que ce soit un consentement bien informé, qu'il soit préalable et que ce droit leur soit reconnu. Donc voilà, ceci n'est pas toujours fait dans la plupart des cas.
Alors un exemple d'opacité qui a fait couler beaucoup d'encre à l'époque, c'était le contrat noué par Madagascar avec Daewoo qui donnait quasiment 1,3 million d'hectares pour une durée de 90 ans à cette firme pour exploiter la terre et produire sur place. Ça a fait un gros scandale à l'époque. Je pense que vous étiez, monsieur Rabatoumanga, dans le gouvernement de l'époque qui était celui de Marc Ravalomanana. Qu'est-ce qui vous amène à prendre une telle décision, à octroyer ainsi une bonne partie du territoire à Daewoo?
Je tiens d'abord à préciser que je n'ai jamais appartenu à aucun gouvernement avant ma nomination au gouvernement d'Union nationale de Madagascar depuis novembre 2011. Toutefois, j'étais déjà dans l'équipe du président Marc Ravalomanana en tant que sénateur, questeur du Sénat à l'époque.
D'accord.
Bon, mais ça, c'est une précision qui
est importante. Vous n'étiez pas membre du gouvernement. Vous étiez tout simplement un proche du régime. Voilà.
Oui, j'étais sénateur à l'époque, je le confirme. Sur cette histoire de terrain octroyé à Daewoo, je voudrais commencer par préciser que, effectivement, à Madagascar, nous avons le droit, la loi permet de octroyer par voie de bail emphytéotique des terres à des étrangers. Mais, jusqu'à preuve du contraire, la loi interdit tout accès, toute vente de terres à des étrangers. C'est une loi qui est en vigueur et qui était toujours en vigueur d'ailleurs. Mmh. Ça, c'est le premier point que je voudrais préciser. À partir de là, je ne peux pas vous confirmer ou affirmer si le million d'hectares dont vous parliez était effectivement octroyé ou pas. À ma connaissance, non. Et je me permets d'avancer cette affirmation ou cette information par le fait que des demandes ou une demande a été effectivement faite et mise à l'époque par le groupe Daewoo. Des études ont été faites, des propositions ont été faites de part et d'autre, mais de toute façon, à partir de cette loi interdisant l'accès des étrangers à la propriété foncière, toute décision de ce genre, aussi bien à l'époque du président Ravalomanana que actuellement à la date d'aujourd'hui, doit passer impérativement par un accord donné par le gouvernement. Ce qui n'a jamais été fait, et je le confirme, ce qui n'a jamais été fait.
Alors le directeur financier de Daewoo Logistique disait « Nous avons de graves difficultés à Madagascar, le projet se déroulait correctement, mais il a été brutalement stoppé à cause des comptes rendus des médias. Ces comptes rendus ont mis en colère les Malgaches car il les rend honteux de faire partie de ce qu'ils appellent un système néocolonial. » Donc il y avait bien une transaction qui évoluait, ça n'a peut-être pas été signé, mais les choses étaient en cours. Qu'est-ce que c'est devenu? C'est totalement annulé aujourd'hui dans le gouvernement où vous...
C'est totalement annulé. Mm-hmm. C'est totalement annulé du fait que ça n'a jamais été signé comme vous le dites. Mais je confirme que même à la date d'aujourd'hui, des demandes de plusieurs multinationales nous parviennent aussi bien au ministère de l'Agriculture pour des terres agricoles que au niveau des autres ministères pour des besoins autres que l'agriculture. Mais en tout cas, je précise que nous avons un avantage énorme à travers notre loi d'interdiction d'accès à la propriété foncière aux étrangers, et que si par hasard il y a une demande de la part de qui que ce soit, ça doit se faire de façon très transparente, parce que ça doit passer impérativement par un accord en conseil des ministres.
Mais dans ce cas, est-ce que cette loi ne vient pas finalement bloquer aussi le développement de l'agriculture dans ce pays qui en a besoin? Est-ce que finalement, ça ne devient pas... Il n'y a pas un effet boomerang?
Non. C'est l'accès à la terre en tant qu'achat-vente qui est interdit, mais l'accès à la terre par bail emphytéotique allant jusqu'à 99 ans, renouvelable, est envisageable, moyennant des conditions difficiles, je le reconnais, mais en tout cas envisageable, mais impérativement, on vient de vous le dire, avec l'accord du gouvernement, et au préalable, après une étude de l'IDBM, Economic Development Board de Madagascar, qui étudie les grands projets et qui donne un avis technique favorable ou défavorable à une telle demande. Donc, si par bonheur, il y a une demande sérieuse de la part d'un étranger, qu'il soit physique ou personne physique ou personne morale, l'IDBM fait son étude.
L'IDBM, c'est-à-dire le gouvernement en gros.
Le gouvernement, parce que c'est... Mais pas uniquement le gouvernement, parce que l'IDBM est sous contrôle du gouvernement, bien sûr, mais avec un regard direct et permanent des partenaires techniques et financiers, c'est-à-dire des bailleurs de fonds, qui sont les bailleurs de ce bureau d'études.
Alors, Monsieur Olivier de Schutter, vous qui êtes le rapporteur spécial du secrétaire général des Nations Unies pour le droit à l'alimentation, on sait que dans ce domaine-là, vous œuvrez pour que ces terres-là ne soient plus distribuées comme ça, pour qu'il y ait une meilleure répartition de ces terres-là. Mais dans le même temps, on a le Fonds monétaire international et la Banque mondiale qui financent ces mastodontes de l'agribusiness sur le terrain, qui leur donnent le moyen de s'accaparer ces terres. Comment vous gérez ça?
Écoutez, ce qu'il faut peut-être souligner d'abord, c'est que l'idée qu'il y ait des terres disponibles qui doivent être et peuvent être exploitées mieux est une idée qui est un peu caricaturale. En fait, les terres qui sont les plus demandées, les terres fertiles, les terres faciles à irriguer, les terres qui sont proches des voies de communication, sont des terres qui sont très demandées. Et l'idée qu'il y aurait un grand nombre de terres disponibles pour accueillir là des investisseurs étrangers est une idée qui est erronée, parce qu'elle suppose que toutes les terres se valent, ce qui n'est pas le cas. Et le grand risque que l'on court, c'est que les petits paysans, qui ne sont pas protégés suffisamment par les gouvernements, qui n'ont pas de titre de propriété sur la terre qu'ils occupent depuis des générations parfois, se trouvent effectivement, comme l'a très justement dit M. Bitayé, comme l'a rappelé Samuel Ngoufo, que ces paysans soient expulsés sans aucune voie de recours, sans aucune possibilité de compensation. Et c'est vrai qu'on a des acteurs importants qui financent ces investissements, qui parfois encourage l'arrivée d'investisseurs sous prétexte de développer l'agriculture. Mais en fait, l'agriculture devrait être développée, et elle le peut, par d'autres moyens. On peut investir dans la petite agriculture familiale, on doit investir dans une meilleure formation des agriculteurs, dans des moyens de stockage, des moyens de communication, mais en faveur de ces petits agriculteurs-là, qui sont aujourd'hui la masse des pauvres ruraux, et qu'on ne peut pas se permettre de marginaliser davantage. Moi, je suis pour l'investissement dans l'agriculture. Je crois que c'est très important qu'elle attire à nouveau des investisseurs. mais on ne doit pas continuer de développer ces accaparements de terres qui, du point de vue du développement rural et du point de vue de la lutte contre la pauvreté rurale, sont la pire des solutions.
Mais si on ne finance pas ces terres-là, si on ne finance pas ces grandes firmes internationales, l'agriculture africaine reste parfois un peu, on va dire, rurale et rudimentaire.
L'alternative n'est pas entre le statu quo, d'une part, et d'autre part, les accaparements de terres et les développements de grandes plantations agro-industrielles. Il est possible de développer l'agriculture, et il faut le faire, mais en investissant dans un autre type d'agriculture. Les petites parcelles, Monsieur Foucault, sont très souvent plus productives à l'hectare que les grandes plantations agro-industrielles. Investir dans la petite agriculture familiale, c'est faire reculer la pauvreté rurale, c'est contribuer au développement rural, c'est le meilleur investissement que l'on puisse faire pour l'avenir à long terme du secteur agricole dans les pays africains. Et c'est là qu'il faut attirer les investisseurs, c'est dans ce type d'investissement qu'il faut aller. Et les investisseurs peuvent comprendre qu'il peut être dans leur intérêt de passer à des méthodes d'agriculture contractuelle, de soutenir les petits agriculteurs pour que sur leurs terres, ils puissent continuer à produire dans des meilleures conditions. Ça, ce n'est pas le statu quo, c'est au contraire une agriculture vivrière qui peut être la plus favorable au développement rural et à la lutte contre la pauvreté rurale.
Mais M. Bitey, vous qui êtes en Afrique de l'Ouest, est-ce que c'est faisable, est-ce que c'est pas un vœu pieux en disant on va soutenir les agriculteurs ruraux pour qu'ils produisent un peu plus et qu'ils produisent pour nourrir le pays? Ont-ils les moyens, la capacité pour produire à la demande du pays?
Écoutez, Monsieur Foucault, les petites exploitations aujourd'hui constituent 30%, contribuent pour 30% du PIB et environ 40% des exportations de l'Afrique. Donc, ils ont un réel potentiel, ils sont appuyés. Moi, ce que je voudrais surtout dire, c'est que tout à l'heure, on a écouté les principes. Souvent, les lois qui sont codifiées dans les pays. Mais le problème, c'est dans leur application. Ce que nous pensons, c'est pas, comment dirais-je, le bradage des terres tout azimut. Mais il faut avoir une politique pensée, une politique qui s'appuie sur l'agro-misère, mais qui s'appuie aussi sur et surtout sur les petits producteurs. Nous avons des exemples de pays qui ont su arrêter à temps. Je peux donner l'exemple, par exemple, du Mozambique, qui a vu en 2 ans tripler les transactions d'acquisition de terres. Eh bien, le gouvernement a décidé d'arrêter tout ça, d'y réfléchir, de définir une politique, et depuis 2 ans, il n'y a pas eu une acquisition de grande envergure, mais des politiques qui intègre un partenariat public-privé avec, bien sûr, les petits producteurs au centre, tels que le projet du couloir agricole de Beira ou d'autres projets, sont vraiment le genre d'approche que nous devons avoir. Des politiques foncières bien pensées qui mettent au centre ce qui permet de valoriser ces terres et qui, jusqu'à présent, ont assuré donc l'alimentation des pays avec un soutien adéquat. Je pense on est convaincu qu'ils vont y arriver.
Des politiques foncières qui souvent sont incomplètes ou qu'on ne connaît pas du tout.
Oui, absolument. Parfois, quand même, ils sont très 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 faibles. Parfois aussi, il y a un déséquilibre entre, disons, le système traditionnel, si vous voulez, de gestion des terres et, comment dirais-je, la réglementation actuelle. Donc il faut trouver un équilibre entre cela et avoir une véritable politique qui soutienne justement l'agriculture et l'autosuffisance alimentaire en Afrique.
Nous allons en parler dans la seconde partie. Nous parlerons également des autres terres qui ont été octroyées à des firmes multinationales dans des conditions assez curieuses. Dans la seconde partie, dans une dizaine de minutes, juste après une nouvelle édition du journal sur Radio France Internationale. Restez avec nous, nous serons toujours en compagnie de nos invités qui sont à la fois à Rome, à Yaoundé, à Madagascar et à Dakar. À tout de suite.
Ce magazine vous a été proposé par le groupe NCA, Assurance et Banque, présent dans 11 pays d'Afrique subsaharienne.